Michel a assuré la mise en vente. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 18 octobre 2023. Le président de la transition au Tchad, Mahamat Debi Itno, reçu aujourd'hui à l'Élysée. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko reprend sa grève de la faim. Le président Joe Biden s'est rangé du côté d'Israël qui a nié toute responsabilité dans l'explosion sur un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts et déclenché des protestations dans toute la région.
L'un des aspects de la visite, c'est de faire en sorte que les Palestiniens qui le souhaitent puissent sortir de Gaza. Donc voilà toutes sortes de problèmes que le président Biden aurait évidemment souhaité discuter avec les trois interlocuteurs qui devaient le rencontrer dans ce sommet-là et qui est une partie importante de son voyage et donc malheureusement vidée de sa signification à l'heure actuelle.
La réaction de Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York à suivre dans la partie magazine. Israël a accepté l'envoi d'une aide à Gaza par l'Égypte, selon le président Joe Biden. Ici aux États-Unis, la Chambre des représentants n'est pas parvenue à élire un président à l'issue du second tour du scrutin. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute court pour l'instant le journal. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Debi, est à Paris depuis hier. Il a rencontré le président français Emmanuel Macron à l'Élysée dans l'après-midi. Cette visite intervient alors que les soldats français qui se retirent du Niger doivent transiter par le Tchad. Nathalie Barge.
La visite de Mahamat Debi intervient alors que quelques 1400 soldats français partis du Niger transitent par la route vers le Tchad. L'armée tchadienne les escortera jusqu'à l'aéroport de N'Djamena où ils prendront l'avion pour rentrer en France. D'autres seront escortés jusqu'à la frontière du Cameroun avec du matériel qui doit être embarqué au port de Douala, a indiqué le chef d'état-major de l'armée tchadienne, Abakar Abdelkarim Daoud. Environ 1600 km séparent Niamey de N'Djamena et 1500 km N'Djamena de Douala. Le Tchad abrite déjà le commandement des opérations françaises au Sahel et un millier de militaires français sont répartis entre N'Djamena, Faya et Abéché. Les frontières communes du Niger, du Tchad et du Cameroun sont situées dans la région du bassin du lac Tchad, gigantesque étendue d'eau et de marécages abritant des îlots qui servent de repères à Boko Haram et au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet, a annoncé mardi reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre. Les précisions de John Lindon.
Nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet. C'est pourquoi j'ai décidé de reprendre ma grève de la faim, a déclaré l'opposant sur sa page Facebook. Il dit vouloir, par cette décision, marquer sa solidarité avec les autres militants arrêtés pour avoir exprimé leur opinion politique, détenus et privés pour certains, selon lui, de tout contact avec leurs proches. Il souhaite aussi protester contre sa détention qu'il qualifie d'arbitraire. Sa reprise de grève de la faim a été confirmée par Maître Clédor Lee, l'un de ses avocats. Candidat à la présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko, 49 ans, accuse le président Macky Sall de vouloir l'écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a annoncé début juillet qu'il ne va pas se représenter.
Décès aujourd'hui à Kinshasa, 77 ans, de Né Mwanda Nsemi, fondateur du mouvement mystico-religieux Bundu Dia Mayala, de son vrai nom Zachary Badiangela. Le charismatique Né Mwanda Nsemi était un ancien député qui a bousculé les différents régimes congolais. Il avait plusieurs fois envoyé ses adeptes dans la rue pour des manifestations.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a assuré à Tel Aviv aujourd'hui qu'il travaillerait avec Israël pour éviter davantage de tragédies aux civils au douzième jour d'une guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza ayant fait des milliers de morts. Le point avec Jacques Aristide.
Nous continuerons de travailler avec vous et nos partenaires à travers la région pour éviter davantage de tragédies aux civils innocents, a déclaré le président Joe Biden. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, à ses côtés, a promis que son pays fera tout ce qu'il peut pour épargner les civils. La visite du chef de l'exécutif américain en Israël intervient le lendemain d'une frappe qui a fait plus de 200 morts dans un hôpital de Gaza, territoire sous contrôle du Hamas. Le mouvement islamiste accuse Israël, qui de son côté attribue la frappe au djihad islamique, une autre organisation armée présente dans la bande de Gaza qui a démenti. Le président Joe Biden a soutenu la version des autorités israéliennes. « J'ai été profondément attristé et choqué par l'explosion dans l'hôpital à Gaza et sur la base de ce que j'ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse, pas par vous », a-t-il déclaré à Benjamin Netanyahou. « Nous devons aussi garder en tête que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien et ne leur a apporté que souffrance », a ajouté le président américain.
Le président Joe Biden a assuré qu'un accord existait avec Israël pour l'acheminement via l'Égypte d'une aide humanitaire à la bande de Gaza et a annoncé le déblocage de 100 millions de dollars supplémentaires pour les Palestiniens de l'enclave et de Cisjordanie. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël n'empêcherait pas la livraison d'une aide humanitaire à la population de la bande de Gaza via l'Égypte, à condition qu'elle ne parvienne pas au Hamas. Lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, au terme de sa visite dans l'État hébreu, Joe Biden a réaffirmé que les États-Unis feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité d'Israël, réaffirmant son soutien pour une solution à deux États, israéliens et palestiniens au Proche-Orient. Le président américain a également déclaré que la vaste majorité des Palestiniens n'avait rien à voir avec le Hamas. Le département américain du Trésor a annoncé aujourd'hui des sanctions contre 10 membres du Hamas, agents et personnes participant au financement des activités du groupe islamiste palestinien au moment où la guerre fait rage après son offensive surprise contre Israël. Ces mesures visent les cibles des cibles installées à Gaza, mais aussi au Soudan, en Turquie, en Algérie et au Qatar, a dit le Trésor américain dans un communiqué. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde arabe pour exprimer leur indignation face à la mort de plusieurs centaines de personnes dans une frappe contre un hôpital de Gaza. Le Hamas accuse l'armée israélienne, mais Israël affirme que c'est une explosion provoquée par des militants palestiniens, donc à l'origine du bombardement. Alexandrine Ollognon.
D'importants rassemblements ont eu lieu à Amman, Beyrouth, Damas, Tunis et d'autres capitales. Au lendemain du bombardement, qui a fait au moins 471 morts, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, le Hamas accuse Israël, qui à son tour impute l'attaque à un tir de roquette raté du djihad islamique. Le président américain Joe Biden, en visite en Israël, s'est dit attristé et choqué. Il a imputé la frappe à une roquette hors de contrôle, tirée par un groupe terroriste dans le territoire palestinien. Les manifestants sont descendus dans les rues de Ramallah et de Naplouse en Cisjordanie au cri de Palestine libre. Les Émirats arabes unis et Bahreïn, qui ont tous deux établi des liens avec Israël, ont critiqué Israël pour être à l'origine de cette frappe. L'Arabie saoudite, qui a interrompu la discussion sur les liens potentiels avec Israël depuis la flambée de violence, a qualifié l'explosion de crime odieux commis par les forces d'occupation israéliennes. Le Maroc, un autre pays qui a reconnu Israël, l'a blâmé pour la frappe, tout comme l'Égypte, qui est devenu le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël en 1979. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a condamné dans les termes les plus forts le bombardement israélien de l'hôpital Ali Arab de Gaza. Le Qatar, l'un des principaux soutiens du Hamas, a condamné ce massacre brutal et l'Iran a décrété une journée de deuil. Le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama, a accusé Israël de crimes de guerre. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié et condamne l'attaque sans imputer à quiconque la responsabilité.
Le Congrès américain, toujours sans speaker, Jim Jordan, un allié de Donald Trump, a échoué à nouveau à être élu. L'élu de l'Ohio, membre de la frange la plus conservatrice du parti, est actuellement le seul candidat républicain en lice pour le perchoir. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Mfa.
En Angola, le président João Lourenço a déclaré lundi que les réserves de change nettes de son pays avaient atteint 14,1 milliards de dollars, ce qui représente un montant permettant de couvrir au moins 7 mois d'importation. Nous avons été en mesure d'honorer nos engagements, c'est pourquoi nos créanciers continuent d'avoir confiance dans les institutions angolaises, a-t-il indiqué dans un discours prononcé devant l'Assemblée nationale, marquant l'ouverture d'une nouvelle année parlementaire. Le Zimbabwe se classe au 7e rang mondial des producteurs de diamants avec une production annuelle de plus de 4 millions de carats d'une valeur de 420 millions de dollars, a rapporté lundi la chaîne publique ZBC, citant les dernières statistiques du processus de Kimberley, l'organe mondial de régulation du commerce et de la production de diamants. Le Zimbabwe entend produire 7 millions de carats de diamants cette année, le secteur visant un revenu annuel d'1 milliard de dollars. Au Cameroun, la recherche s'affirme aujourd'hui comme un moteur capable de susciter des transformations socio-économiques pour stimuler la croissance et l'emploi. C'est ce qu'a affirmé la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tuinté. C'était lors de l'ouverture, mardi à Yaoundé, de la 8e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Nice suspend le joueur Youssef Attal après sa publication sur le conflit Hamas-Israël.
L'OGC Nice a annoncé mercredi la suspension de son défenseur visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme. Après une publication liée au conflit entre Israël et le Hamas, Youssef Attal a rapidement supprimé sa publication et présenté des excuses. Mais le club a expliqué dans un communiqué avoir fait le choix de prendre immédiatement des sanctions préalables à celles que pourraient prendre les instances sportives ou judiciaires compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité.
La saga du rachat de Manchester United proche du dénouement.
Lancée il y a près d'un an, la mise en vente de Manchester United devrait connaître son épilogue jeudi avec l'arrivée comme actionnaire minoritaire du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, fondateur d'Ineos, un scénario qui laisse les supporters dubitatifs. La famille Glazer doit donner jeudi son feu vert à la cession de 25% des parts du géant anglais qu'elle dirige depuis 2005 contre le versement d'environ 1,5 milliard de livres.
Les finances du Barça en observation selon un dirigeant.
Le FC Barcelone reste en observation mais est sorti d'une situation financière critique, a indiqué ce mercredi le vice-président en charge des affaires économiques du club. Édouard Romeu a souligné que le club Blaugrana a pour priorité d'améliorer les fonds propres, surtout vis-à-vis des investisseurs, et de continuer à s'attaquer à la dette. Le Barça a enregistré un bénéfice de 304 millions d'euros pour la saison 2022-2023, supérieur aux prévisions du club catalan qui cherche à assainir sa situation financière.
Qualification pour le Mondial 2026, l'Argentine solide leader grâce à un doublé de Messi.
L'Argentine a pris de l'avance en tête des éliminatoires de la zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026 grâce à un doublé de sa star Lionel Messi contre le Pérou hier mardi à Lima. Les champions du monde en titre sont solides leaders des qualifications régionales avec 12 points glanés en 4 journées, soit un sans faute.
Neymar Junior sort sur blessure contre l'Uruguay.
Soirée cauchemardesque pour le Brésil. Neymar est sorti en pleurs sur une civière après s'être blessé au genou gauche lors de la défaite du Brésil face à l'Uruguay 2-0 hier mardi à Montevideo lors d'un match des qualifications pour le Mondial 2026. Il est mal retombé à la suite d'un accrochage avec le milieu uruguayen de la Cruz et s'est tordu le genou. Le directeur de communication de la Confédération brésilienne de football a indiqué qu'il s'agissait d'une blessure inquiétante sans donner plus de détails. Il a précisé que le joueur de 31 ans allait subir des examens approfondis ce mercredi à Sao Paulo.
Page de sport VO Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président américain Joe Biden a quitté Tel Aviv en Israël au lendemain d'une frappe qui a fait plus de 200 morts dans un hôpital de Gaza. Le sommet quadripartite qui était prévu entre le président Biden, le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le roi Abdallah II de la Jordanie a été annulé. Par ailleurs, des milliers de Palestiniens sont toujours pris au piège du blocus israélien à Gaza au 12e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas. Nani Talani a joint Souleymane Béchir Diagne, professeur à l'Université de Columbia à New York, ici aux États-Unis.
Sa visite est compliquée par le fait que le Parlement américain en ce moment est paralysé par l'absence d'un président du Parlement, ce qu'on appelle Speaker of the House. Malheureusement, les républicains sont incapables de se mettre d'accord sur un candidat. Or, il est important que le Parlement, bien entendu, puisse se réunir, puisque une des fonctions principales du Parlement, c'est de tenir la bourse des finances. La situation aujourd'hui dans le monde, en Ukraine, mais également en Israël, commande aux États-Unis, évidemment, de pouvoir intervenir financièrement, et l'Amérique est dans l'incapacité de le faire, ce qui complique grandement de la visite du président Biden, parce que quelles que soient les promesses qu'il fait, quelles que soient les décisions qu'il partage avec ses interlocuteurs au Moyen-Orient, il va bien falloir que le Parlement puisse les entériner et aller dans la même direction.
Suite à la tragédie qui a frappé l'hôpital à Gaza, la rencontre prévue entre Joe Biden et trois dirigeants importants, y compris Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne, a été annulée. Cela ne va-t-il pas compliquer davantage la situation?
C'est justement cette attaque absolument effroyable sur l'hôpital de Gaza qui va encore plus compliquer la situation, parce qu'en effet, il était naturel pour le président palestinien de décréter trois jours de deuil national à la suite de cet effroyable massacre de Palestiniens réfugiés dans un hôpital. Et par conséquent, la visite qui était le deuxième temps, si vous voulez, du voyage du président Biden, qui lui aurait permis de tenir un sommet avec le roi de Jordanie, le président de l'autorité palestinienne et le président de l'Égypte, ce sommet a été annulé au dernier moment, ce qui fait que son voyage est amputé d'une partie importante de sa signification. Il s'agissait de rencontrer ses leaders pour essayer de faire en sorte que les Palestiniens ne soient pas enfermés dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza au moment d'une intervention imminente, semble-t-il, d'Israël.
Que dire de ces civils palestiniens qui sont toujours sous blocus israélien à Gaza?
Cette question est insoluble, qu'il semble vouloir dire que bien que la rencontre physique ne puisse pas se faire, il va au moins entrer en contact, on imagine téléphonique, en fait tous les contacts possibles et imaginables, avec ces leaders-là, parce que en effet, l'un des aspects de la visite était de faire en sorte que ce corridor humanitaire puisse s'ouvrir, que les Palestiniens puissent, qui le souhaitent, puissent sortir de Gaza. Donc voilà toutes sortes de problèmes que le président Biden aurait évidemment souhaité discuter avec les trois interlocuteurs qui devaient le rencontrer dans ce sommet-là. Et une partie importante de son voyage est donc malheureusement vidée de sa signification à l'heure actuelle. Il reste évidemment des contacts directs autres que dans un sommet. Il faut quand même espérer pour lui que les contacts puissent se faire pour que les civils palestiniens arrêtent de souffrir de cette situation.
Souleymane Béchir Diagne de l'Université de Columbia à New York, ici aux États-Unis. Des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde arabe et musulman pour exprimer leur indignation face à la mort de plusieurs centaines de personnes dans une frappe contre un hôpital de Gaza. À Beyrouth, les manifestants qui voulaient s'approcher de l'ambassade américaine ont été repoussés par les forces libanaises. Eric Manirakiza a joint dans Beyrouth même Janine Jacques du quotidien L'Orient le Jour.
Écoutez, il y a eu des manifestations un peu partout au Liban. au sud, notamment de grandes manifestations au sud, cela va de soi, puisque c'est un peu le fief du Hezbollah. Mais évidemment, la manifestation la plus virulente, on va dire, s'est déroulée près de l'ambassade des États-Unis à Aucar, où il y a eu du grabuge qui a duré pendant une bonne heure, et jusqu'à ce que l'armée libanaise réussisse à repousser les manifestants hors du périmètre de l'ambassade.
Que réclament ces manifestants?
Écoutez, les manifestants, c'est surtout une colère, beaucoup plus que des revendications précises. Ils sont en colère contre la visite de Biden en Israël, qui est une visite de soutien, évidemment, à l'État d'Israël. Et le président américain a également exprimer des doutes quant à l'origine du missile qui a frappé l'hôpital Al-Mahmadeh à Gaza hier. C'est un ensemble de frustrations qui se sont accumulées depuis pratiquement que les États-Unis ont évidemment pris position en faveur d'Israël et en réitérant le droit d'Israël à se défendre dans cette guerre.
La visite de Biden a quand même permis l'ouverture du corridor humanitaire. Comment c'est perçu au niveau de l'opinion à Beyrouth?
Objectivement, c'est une bonne chose, mais ce petit geste, n'est-ce pas, qui va calmer un tout petit peu le mécontentement, n'est-ce pas, de toute une base de Libanais et de Palestiniens qui sont vraiment remontés contre les États-Unis. Ils les accusent de parti pris avec l'État d'Israël qui est en train de commettre des massacres et des crimes contre le peuple de Gaza.
Mais ils n'en cautionnent pas les crimes commis par le Hamas.
Non, évidemment, vous savez, dans ce genre de situation, enfin, la base populaire dans le monde arabe ne va certainement pas cautionner l'action du Hamas. Pour beaucoup d'entre eux, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Donc, c'est une question de perception, n'est-ce pas?
Est-ce qu'ils ont des idées comment il faut mettre fin à ce conflit?
Non, je pense que personne n'a aucune idée comment mettre fin à ce conflit, même pas le Hezbollah, à mon avis. Évidemment, les grands titres, c'est... il y a des lignes rouges, on va dire, voilà. C'est-à-dire, il y a des lignes rouges qui ont été tracées par l'Iran et par le Hezbollah, à savoir qu'il ne doit pas y avoir une incursion terrestre à Gaza. Mais à part ça, je pense que les revendications ne sont pas encore claires, à part les grandes revendications du droit des Palestiniens à récupérer leurs territoires occupés.
Janine Jark, du quotidien L'Orient, Le Jour, à Beyrouth.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan à nouveau sur la guerre entre Israël et le Hamas, avec notamment la visite de solidarité du président américain Joe Biden dans l'État hébreu. Autre objectif, tenter de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza au moment où la peur de l'embrasement gagne toute la planète. Le voyage du locataire de la Maison Blanche peut-il influencer le cours du conflit? Quelle est la position des puissances du Moyen-Orient? Quel rôle joue la communauté internationale dans la recherche d'une solution pacifique? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Au Gabon, le délaissement des langues locales au profit du français inquiète les linguistes. Une alerte pour interpeller les autorités publiques sur l'urgence d'insérer ces langues dans le système éducatif. Le projet avait pourtant connu un début d'expérimentation dans quelques établissements scolaires de Libreville, sauf qu'il n'a pas prospéré. La crainte de voir les langues gabonaises connaître un déclin devient plus que préoccupante. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Censeur pédagogique au collège Sainte-Marie de Libreville, Pascal Chela était l'une des volontaires du programme d'enseignement des langues gabonaises à l'école. C'est donc avec un pincement au cœur qu'elle évoque le souvenir de ce projet mort-né.
Le projet n'a pas abouti. Non seulement ce n'était pas soutenu parce que les établissements dépensaient, puisqu'on recrutait des gens, des volontaires, que les établissements payaient. Et comme ça devenait lourd, les établissements se sont résolus à supprimer complètement.
À la base du déclin de l'initiative gouvernementale, la plupart des langues n'ont jamais été écrites. Finalement, très peu d'établissements l'ont expérimenté. Directeur de la vie scolaire au collège Bessieux à Libreville, Alix Kizito redoute la disparition d'un pan entier de la culture de son pays.
Le peuple qui ne sait pas s'exprimer dans sa langue nationale a toutes les difficultés du monde aussi pour s'exprimer dans les langues étrangères. Et tous les professeurs se sont simplement convertis en professeurs de français.
À la maison comme à l'école, le français reste le seul vecteur de la communication dans une société gabonaise pourtant multilingue. Daisy et Delia, deux élèves qui rêvent du retour de l'apprentissage des langues maternelles dans les établissements scolaires.
C'est un petit avantage parce qu'on va savoir parler nos langues maternelles et paternelles.
La promotion des langues maternelles et de la vie de certains Gabonais d'un enjeu multiforme. Jumba, parent d'élèves.
Il faudrait également aussi que le gouvernement gabonais puisse aussi décider quelle est la langue d'abord au départ qu'on peut parler, naissant comme tous les Gabonais, que tu sois enfant, pour nous, Nzedi.
Or, avec une cinquantaine de langues reflétant la diversité ethnique du Gabon, le pays peine à adopter une langue locale comme langue officielle. Professeur Yolande Nzombi, spécialiste des sciences du langage et de la communication.
Quel statut dans notre constitution est accordé à nos langues? Aucun. On nous dit tout simplement, en outre, la constitution œuvre pour la promotion, la protection. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut aller bien loin? Donc, le statut minimaliste, tout ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays par rapport à nos langues maternelles, vient déjà de ça.
Les professionnels de l'éducation sont convaincus que la mise en place d'un observatoire national de la culture serait un premier pas vers la revalorisation des langues gabonaises. Ils en appellent à la diligence des autorités du pays. Libreville, Ismaël Obiancé pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Direction le centre du Mali, à Bandiagara, où, au plateau Dogon, la case apparable, communément appelée Toguna, est l'un des piliers de la culture Dogon. Les sages du village s'y réunissent pour discuter des affaires communes. Cette identité culturelle Dogon fait aussi office de palais de justice coutumier. De Koro, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Salutations matinales avant de se retrouver sous les grands hangars érigés au centre du village. Nous sommes au village de Gehourou, dans le cercle de Koro. Yakuba Togo, un sage du village, nous accueille sous les grands Toguna.
Le Toguna est un héritage culturel de nos ancêtres. C'est un lieu public où se réunissent les sages du village. Il est maintenant la position sociale chez les Togo.
Cette identité culturelle Dogon repose souvent, mais pas toujours, sur les huit piliers de bois, un nombre qui rappelle celui des premiers ancêtres Dogon. Les Toguna jouent plusieurs rôles dans les villages Dogon, comme nous explique Siabou Nyangali, acteur culturel à Koro.
Les lieux de recueillement et la place, voilà, où la réussite se vit. Généralement, il n'y a pas de femmes dans le Toguna. Même quand il y a un jugement à faire, c'est au Toguna que ça se fait, et les femmes sont tenues à l'écart. Les patriarches ont jugé que l'affaire de l'homme, c'est l'homme qui doit traiter cela.
En plus d'être un palais de justice, le Toguna est aussi un symbole d'hospitalité des Dogon.
Quand un étranger vient dans le village, il peut se reposer sur le Toguna. On lui offre de la nourriture et de l'eau pour lui témoigner de l'hospitalité du village.
Dans chaque village Toguna, le renouvellement d'un Toguna se fait selon des critères. Nous sommes ici dans le village de Yoribou pour le renouvellement du Grand Toguna. Une grande fête est organisée pour la circonstance.
Notre grand Toguna est renouvelé tous les 7 ans. C'est une tradition ancestrale et tout le monde participe.
Les femmes sont aussi au rendez-vous pour la cérémonie.
Il y a 7 associations de femmes dans les villages. Nous préparons pour les hommes qui font le travail.
En plus du Toguna, d'autres identités culturelles comme les masques attiraient plusieurs touristes venus de partout. Mais la crise sécuritaire a porté un coup dur au secteur. Beaucoup souhaitent un retour de la paix pour permettre à ceux qui souhaitent venir visiter ou revisiter la beauté culturelle du plateau Dogon. Tidjani Widrogo pour VOA Afrique, Koro.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.